carnets de campagne. Bonjour, les carnets concluent aujourd'hui le tour des initiatives dans le département des Landes. Ici, les activités agricoles, sylvicoles, viticoles tiennent une place encore importante, portée par une multiplicité de labels de qualité. Cette agriculture landaise n'est pas pour autant durable et solidaire. La sortie du schéma maïs-élevage a été une des raisons de la création de l'ALPAD, Association landaise pour la promotion de l'agriculture durable. Vous allez trouver à la page du MODEF 40, à ne pas confondre avec le MEDEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux, la fiche de présentation de ce groupement d'agriculteurs. Ils sont une cinquantaine afin de partager les expériences et améliorer leurs pratiques. Derniers invités de la semaine, Alexandre Messirel, le club 418, à lire l'article de Géraldine Martin dans les pages numériques de La Vie pour une intelligente réutilisation de la résine des planches de surf. Vous allez comprendre comment. Et puis Sylvie Le Calvez, que nous rejoindrons en Normandie pour un dossier du magazine Village consacré cette fois aux aides multiples à la création de projets en milieu rural.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Alexandre Messirel, bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre courrier, Alexandre. Au fait, avant de s'engager sur la présentation de votre groupe de designers, le club de 418, vous êtes surfeur vous-même ?
Absolument.
Oui.
C'est une passion.
Et donc je découvre que l'industrie du surf est très polluante.
Alors c'est un petit peu paradoxal parce que le surf véhicule une image assez proche de la nature, avec des gens respectueux de l'environnement, ce qui est globalement vrai au niveau des pratiquants, mais au niveau de la fabrication du matériel, que ce soit les planches ou les combinaisons, enfin tout l'équipement qui a trait au surf, eh bien on utilise des matériaux qui sont extrêmement polluants, c'est très difficile à recycler.
Comment vous en êtes venu à créer, donc, vous, designer, qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser ces déchets, entre autres cette résine catalysée, comme l'on dit, pour faire du mobilier ?
C'est parti bêtement d'un constat qu'on avait des quantités de matériaux qui partaient à la déchetterie jusqu'alors. Et vraiment, la base du projet, ça a été de trouver un moyen d'utiliser ces matériaux pour en faire quelque chose. Mmh. Et vu notre goût, on va dire, pour le design et pour les objets, le constat est venu assez facilement de créer du petit mobilier pour commencer en trouvant un process de fabrication afin d'utiliser ces matériaux.
Ouais, c'est très réussi. Alors 418 pour votre ancienne adresse, jadis à Bidart, chez le voisin,
oui,
et vous êtes installé à Seignos.
Principalement pour un gain de place, on avait un petit atelier à Bidart et on avait besoin d'un peu plus de place parce que le projet s'est un petit peu développé et devant la clientèle qui a augmenté, on avait besoin d'un espace plus grand afin de pouvoir produire dans de meilleures conditions.
Comment on transforme la résine et on la recycle ?
Alors, c'est la grande question qui s'est posée tout au long de la recherche du processus de fabrication. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la résine, une fois qu'elle est catalysée, est complètement dure et constitue des blocs. Et en fait, la meilleure solution qu'on ait trouvée, c'est de concasser ces blocs, de les broyer afin de pouvoir les réassembler et de les utiliser pour concevoir et fabriquer les noyaux de pièces de petit mobilier.
Oui.
Voilà. Donc en fait, on se sert de cette résine recyclée comme un matériau très rigide, très dense, et qu'on va englober dans de nouveaux matériaux afin de pouvoir la mélanger et faire en sorte que le résultat soit parfait.
Alors évidemment, le mobilier est en bois.
On a du bois. Les plateaux des tables et nos tabourets sont en résine. On utilise du bois, principalement sur les pieds de nos tables et tabourets, du bois français qui est tourné par un artisan qui est à Jettemont, qui est un petit peu la capitale de la chaise dans les Landes. Et alors on a deux essences de bois, on a du hêtre et du pin landais qu'on brûle pour lui donner une finition plus résistante et plus esthétique, afin de proposer du mobilier qui passe bien à l'extérieur, par exemple. Donc dans les Landes, on est un petit peu la capitale européenne du surf, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'ateliers qui fabriquent des planches, donc ça fait toute la matière première, on va dire, la résine à recycler, elle est à proximité. Tout est fait à la main dans notre atelier à Seignos, et seule la partie des pieds donc, est sous-traitée, mais par un artisan qui est à quelques dizaines de kilomètres de l'atelier.
Oui. Et qui est non-voyant.
Alors ça, c'est un de nos autres partenaires qui est au Pays Basque et qui est tourneur et qui a la particularité d'être non-voyant et qui tourne les pieds en ressentant l'air que diffuse son tour à bois entre la pièce qui va tourner et sa peau. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant et on travaille avec lui depuis le début.
Oui. Je peux dire pour l'esthétique que vous êtes très années 60.
Exactement. Alors, notre gamme est très axée sur ce design à inspiration scandinave, fin des années 50, années 60, avec une table galet, on dirait pour les musiciens, un médiator triangulaire.
Oui, c'est ça.
Nous sommes en train de développer des nouvelles formes. Dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, on aura des formats ronds, rectangulaires ou carrés. Voilà.
Et par quelle voie vous diffusez vos réalisations ?
Alors, la majorité, on va dire, de nos clients sont des clients directs qui nous connaissent soit par des articles de presse, par des blogs ou qui nous ont vus sur des salons, des choses comme ça. Notre deuxième public prioritaire, on va dire, ce sont les architectes d'intérieur et les décorateurs. Et on a 5 magasins partenaires, au Pays Basque, à Toulouse, à Paris et à Nantes. Ce sont des magasins qu'on choisit vraiment comme étant représentatifs de tout ce qui fait nos caractéristiques. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, soit ont vraiment une... mettre de l'importance sur l'éco-design, sur le fait main, sur l'artisanat, sur les petites séries, sur les finitions sur mesure, et ainsi de suite.
Saine et belle démarche, bravo. Club418.com, il y a la page Facebook Club418 Design. Le siège est à Seignos. Merci Alexandre.
Merci à vous et puis bonne continuation.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Il existe des lieux qui reprennent vie grâce à une mobilisation des habitants. C'est le cas à Saint-Paul-en-Born avec l'ancienne gare ferroviaire transformée en espace d'exposition d'art contemporain, de rendez-vous culturel, et ce avec les cheminots qui y participent et les habitants à cet édifice depuis 2011. L'originalité, la multiplication des événements et entre autres, là une dernière exposition vient de se terminer, mais je découvre dans les programmes des choses qui collent vraiment à l'esprit de cette gare transformée, comme le théâtre égaré, c'était tout indiqué, qui correspond à un spectacle musical en caravane, la caravane servant de scène. Cette étrange compagnie de théâtre égaré est une des innombrables inventions d'un pianiste atypique, auteur, compositeur, interprète, musicologue, directeur de la filière musique à l'université Bordeaux-Montaigne, j'ai nommé Pascal Piston, auteur de nombreuses pièces, même d'opéra. Pascal s'est même engagé au nom des sans-abri à organiser des cafés-concerts sous l'intitulé de Merci pour l'invite. Il joue aussi bien Chopin qu'il chante Alain Leprest et il est le créateur de la première licence chanson d'expression française, jazz et musiques actuelles à la même université de Bordeaux. Allez voir son site, il est en lien, ainsi que celui de la gare de l'art à Saint-Paul-en-Born dans les Landes. On va en Normandie rejoindre Sylvie Le Calvez. Sylvie, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village depuis les studios de France Bleu Normandie-Caen, avec un dossier extrait du numéro 133 d'automne de Village. C'est construire son projet, ils vous aident, ils vous attendent. C'est drôlement pratique. Je pense que vous allez faire un tabac, comme on disait jadis à la CETA, avec ce dossier. Parce que vous donnez la liste et les liens de toutes les structures d'accompagnement et puis des exemples concrets. Je trouve ça toujours intéressant parce que on peut se projeter sur ces personnes qui se convertissent, qui changent de voie, par exemple grâce à l'ADR, l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural.
Oui, alors c'est vrai qu'on revient à nos fondamentaux aussi à travers ce dossier, parce que on traite tellement de ce sujet de la création d'activités durables en milieu rural, qu'on croit que ça y est, tout le monde connaît tous les réseaux, etc., et notamment les réseaux d'accompagnement. Mmh. Évidemment, c'est faux, et on s'est dit, il est bien qu'on se replonge sur aujourd'hui, je crée mon activité, qui je dois aller voir, comment je peux faire. Et Stéphane Perrault, notre journaliste, quand il s'est lancé là-dedans, il m'a dit, en gros, on pourrait faire trois bottins, comme on disait à l'époque, un annuaire incroyable, tellement il y a de structures d'accompagnement,
ah oui.
On peut en compter jusqu'à 5000. En fait, on ne sait pas vraiment combien elles sont. En ce moment, elles sont un peu délaissées par les pouvoirs publics, donc malheureusement, elles diminuent. Mais néanmoins, c'est vrai que ce foisonnement fait qu'il y a quand même une richesse pour pouvoir être accompagné dans son projet. Quand on est accompagné dans son projet, ça change quand même tout, mais il faut savoir où aller frapper. Et puis des portes, il y en a plein, et ben faut tout essayer, que ce soit les animateurs sur les territoires, dans les communautés de communes, dans les pays, dans les parcs, qui sont du service public, hein, donc qui sont des agents de développement économique qui peuvent accompagner son projet, des chambres consulaires, des associations, des boutiques de gestion. Donc on a essayé de voir un peu le rôle de chacun.
On a l'exemple qui peut être pénible pour certaines personnes qui... Alors, il y a différents processus. On peut avoir du microcrédit avec l'ADI, par exemple. Et puis il y a d'autres organismes qui disent on veut bien vous prêter de l'argent, mais il faut que vous ayez déjà un prêt bancaire. Et à l'exemple de Roberta et Alain qui se sont installés, ils ont ouvert leur restaurant dans la Nièvre et les banques avaient refusé de participer à au montage de leur projet. Aujourd'hui, un an après l'ouverture, ils disent on fait 60 couverts par jour, le week-end on est obligé de refuser du monde, et surtout nous avons déjà embauché 3 personnes, et aujourd'hui ça nous amuse de voir les banquiers qui nous ont refusé un prêt venir manger chez nous.
Oui, alors c'est vrai que quand on est accompagné et qu'on a effectivement par exemple du financement participatif ou des prêts d'honneur et un accompagnement qui donne de la crédibilité, hein, que ce soit une boutique de gestion, je le disais, une chambre consulaire, une fondation, etc. Néanmoins, parfois, ça suffit pas. Les banques peuvent quand même dire « bah non, votre projet n'est pas réaliste ». Et souvent, globalement, plus on est accompagné, plus ça marche. Puisque, en gros, 77% des entreprises accompagnées sont encore en activité 3 ans après leur démarrage, contre 66% si on n'est pas accompagné. Mmh. Et ça va jusqu'à 82% de réussite après 3 ans si on a un suivi post-création. Ça, c'est une question intéressante qu'on n'a pas pu vraiment aborder complètement dans ces colonnes, parce qu'il y avait déjà beaucoup à dire sur l'accompagnement en amont de l'activité. Mais c'est vrai que avoir des budgets publics pour accompagner les créateurs en termes d'incidence sur la durabilité des entreprises, c'est vraiment important.
Oui, il y a des exemples de régions, on la cite souvent, c'est l'Auvergne avec son agence des territoires d'Auvergne qui reçoit des candidats à l'installation dans le cadre d'un week-end ou d'un séjour prolongé. L'organisme prend en charge les frais de déplacement et d'hébergement des futurs créateurs. Et lorsque ces créateurs décident de s'installer, il y a une phase de transition où ils sont rémunérés par l'Auvergne.
Oui, ça c'est très spécifique à chaque fois, à chaque région, donc c'était difficile pour nous dans ce dossier de détailler le type d'aide par région. On a donné des exemples, celui de l'Auvergne est intéressant parce que c'est très courageux en termes de politique locale. Alors, il y a d'autres exemples, hein, dans le pays du Beaujolais Vert où ils font d'autres choses très, très incitatives, dans le Gers avec l'opération Soho Solo. Mais effectivement, il y a des dispositifs comme ça par région et c'est pour ça qu'il faut se dire je vais frapper à toutes les portes parce qu'il existe des choses des plus petits niveaux, l'intercommunalité, jusqu'à des niveaux régionaux, et que si on reste en se disant « je vais créer mon activité tout seul, sans aller frapper à toutes les portes », on peut louper des opportunités énormes qui feront la réussite de demain. Parce que quand on économise sur son coût d'installation en Auvergne, bien évidemment, c'est de l'argent qu'on peut mettre pour investir dans son matériel. Puis aller frapper et présenter son projet, c'est une façon aussi de clarifier son projet, et de voir comment ça réagit, et où finalement il y aurait peut-être aussi des marges de progression.
Et cette agence des territoires d'Auvergne a accompagné en 10 ans plus de 2500 projets, et sur les 2500, il y en a 85% qui ont été concrètement réalisés. Autrement dit, c'est un plus, en particulier pour les territoires ruraux de cette région. Le site pour toute information, c'est villagemagazine.fr, c'est le numéro 133 que vous pouvez trouver en kiosque. C'est le numéro d'automne, dirigé par Sylvie Le Calvez. Merci Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.
Changement de décor, changement de région. La semaine prochaine, nous irons dans la Nièvre avant d'aborder la Côte d'Or, la Haute-Saône, l'Aveyron, le Tarn et Garonne. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission, à commencer par Audrey Ripoul cette semaine, Hélène Bizio, Stéphane Combe. Merci à Joël Levert qui les assistait. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui ont laboré cette semaine comme Florent Layani aujourd'hui.